Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vos questions.
Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
Cube Radio. 1877-827-2346.
En fin d'année, toutes sortes de compilations intéressantes. Et il y en a une qui a vraiment intéressé Avocat à la barre. C'est la compilation des criminels les plus imbéciles de cette année. Bon, que ça soit la distraction, le manque de jugement, il y a beaucoup de suspects qui ont peu futé, qui ont facilité le travail des policiers en 2020. Malgré que toute l'attention était sur la COVID-19, ça n'empêche pas que ces criminels-là ressortent du lot par leur imbécilité à commettre un crime. Et on en parle avec Antoine Lacroix, journaliste Journal de Montréal, de Québec, qui a écrit cet article-là, qui va nous en faire part. Bonjour.
Bonjour.
Donc, une belle compilation. Ça nous intéresse. C'est qui notre premier criminel imbécile?
Oui, ben c'est ça. Ça fait 3 ans que je m'amuse à faire cette compilation-là. Puis il y a eu plusieurs cas au cours de l'année qui sont venus nous étonner. Là.
Ouais.
Puis le premier qui est un de ceux qui m'a fait beaucoup rire, là, c'est un homme là dans la Naudière qui a décidé là qu'il faisait des rénovations, mais finalement il a décidé qu'il utilisait des portes et des fenêtres de qui est allé voler sur des chantiers de construction.
C'était
juste à côté de chez lui là, donc la police a fait une enquête puis ils ont remarqué que les portes et fenêtres étaient posées sur sa maison, fait que finalement le monsieur il s'est remonté. Plus de portes et fenêtres parce qu'ils ont toutes saisi là, le stock qui a été volé.
Wow. C'est pas trop fort de penser qu'on remarquerait pas ça, surtout si le chantier était proche de chez lui. Ouais. Pas trop une bonne note là-dessus. Il y aura des sanctions. Là. C'est pas la prison à vie, on s'entend, mais c'est pas le crime du siècle. Et ensuite de ça, il y a des fraudeurs et des menteurs.
Ouais, ben c'est ça. C'est un fraudeur qui s'est présenté devant le juge. Tu sais, les juges en entendent souvent des vertes, des pommes. Ben là, lui, il est allé témoigner devant le juge pour se défendre, mais son témoignage a vraiment pas été très reluisant. Là, fait que le juge a qualifié le tout là d'un tissu de mensonge. Là, je vais le citer là. Son témoignage était une série sans fin de mensonges. Jusqu'à une limite au mensonge qu'un juge peut entendre. Cet homme qui est dangereux a écrit là, le juge Salvatore Marcia à propos d'un fraudeur. Fait que c'est pas souvent qu'on entend des juges être aussi durs là, à l'endroit de d'accuser. Mais là, cette fois-ci, le juge a jugé nécessaire là, après tout qu'est-ce qu'il a entendu. Là.
C'est une insulte à son intelligence, à ce que je vois. Là. C'était. On lui a donné. Ouais, il a donné une peine exemplaire, remboursement aux victimes de 800 000 $. Pas cru, puis c'est sûr que de mentir au juge, c'est jamais une bonne idée. On y pense pas, mais les juges, c'est des spécialistes, c'est des détecteurs de mensonges. Ils font ça à longueur de journée, voir si les gens sont crédibles, s'ils mentent ou pas. Donc, ça y aura coûté plus cher parce que la peine exemplaire, là, pas évident. Ensuite, une autre nouvelle intéressante, c'est un agresseur qui était pas gêné.
Oui, ben je disais que les juges en entendent, mais là dans ce cas-ci, le juge en a vu. En fait, il a refusé de voir. C'est un accusé qui, pour prouver son innocence, là, a voulu montrer une photo de son membre, et le juge a refusé cette offre-là. Puis finalement, il l'a condamné à 4 ans de prison. Là, puis ça faisait pas l'affaire de l'accusé qui s'est mis à insulter l'une de ses victimes même. Fait que c'est pas le plus brillant ici.
C'est pas reluisant. C'est ça, lui il a dit c'est pas moi, puis même puis là, il était trop tard, je pense que c'était après le procès, il a dit il voulait montrer une photo de son sexe pour se disculper. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est sûr pour les victimes là, ça je me rappelle j'avais suivi ça là, c'était pas évident pour la victime. Parce que c'est ça, il s'est mis à l'insulter par la suite là. Donc pas une bonne idée. Une autre histoire, c'est il blâme le chat pour des blessures graves. C'est la faute du chat.
Ouais, c'est quoi cette histoire là? Cette fois-ci, pour essayer d'expliquer la situation là, c'est un père de famille qui a grièvement blessé son enfant de seulement 8 semaines. Qui pas capable de d'avouer ses torts, lui a blâmé le chat pour expliquer les blessures. Évidemment, le juge l'a pas cru et finalement ça il a été condamné après avoir fait valoir ces arguments là pas les meilleurs.
Ah non, c'est ça, il l'a pas cru non plus. Je ne sais pas quel genre, j'ai pas suivi cette cause-là, je ne sais pas quel genre de blessure, mais c'est certain que c'est pas si c'est pas des blessures apparentées à un chat. Par contre, il faut comprendre que dans ce domaine-là, j'ai vu des choses, c'est déjà arrivé, des gens qui arrivent. Il faut être très vigilant pour la violence sur ces jeunes bambins-là. Mais c'est déjà arrivé des accidents qui arrivent, puis la personne est accusée ou blâmée d'avoir commis un geste et finalement on se rend compte que c'était d'autres choses. Ça pourrait arriver, mais j'imagine que là que le juge a vu que c'était pas du tout des blessures là qui venaient de griffes de chat. Certainement pas une bonne idée de dire ça si c'est pas vrai. Ensuite, il y a quelqu'un qui avait rien compris. Il est sorti de prison. C'est quoi cette histoire-là? Il n'a rien compris?
Ben c'est un monsieur qui est sorti de prison au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un homme d'Alma. Puis là, finalement, tout de suite à sa sortie là, de prison, il s'est rendu dans un concessionnaire automobile. Puis il a réussi à convaincre le commis là, de faire un essai routier là, en lui disant qu'il était pour acheter le véhicule. Mais le problème, c'est qu'il est jamais revenu là, au concessionnaire. Il a gardé le véhicule, puis il a finalement été arrêté de nouveau, renvoyé en prison, puis accusé de vol.
Aïe, OK. Il sort, lui, puis il cherche un moyen de rentrer. On appelle ça l'institutionnalisation.
Oui, c'est ça.
On a vu ça dans un, je sais pas si nos auditeurs vont se rappeler, un vieux film, À l'ombre de Shang-Chi ou quelque chose de même. Il parlait de ça, qu'il y a des gens qui passent tellement de temps en prison que lorsqu'ils sortent, ils veulent seulement une chose, c'est retourner parce que sont logés, nourris. On sait pas si c'était le cas avec celui, mais évidemment, soit qu'il est très, très stupide ou il voulait se refaire prendre. J'imagine qu'il voulait se refaire prendre. Ensuite, autre dossier, il y a le Grinch qui poignarde un bonhomme de neige. C'est quoi cette histoire-là?
Ça, c'est cocasse, mais triste en même temps. Là, la scène a été filmée avec des caméras de surveillance. Puis c'est un monsieur là, qui n'a toujours pas été arrêté, puis qui n'a pas été identifié. Mais on le voit qui s'arrête avec son véhicule et il débarque et il s'en va poignarder gratuitement une décoration de Noël là, qui est un bonhomme de neige gonflable. Puis on ne sait pas trop pourquoi il a décidé de faire ça, mais c'est quand on regarde la scène, on ne comprend pas trop. C'était complètement gratuit là.
OK. Un geste gratuit totalement. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans un commerce puis il s'est mis à asperger le commis de poivre de Cayenne. Arrêté à 1 kilomètre du lieu du crime, c'est qui ça?
Oui, ben ça, c'est Tristan Martel et Steve Boris là, qui sont allés cambrioler un commerce là, pour s'emparer de bijoux. Sauf que dans le cas ici, là, les caméras de surveillance étaient de très bonne qualité. Puis même si ils portaient le masque qui était obligatoire, ben malgré ça, on a réussi à les reconnaître. Puis comme c'est des gens qui ont des antécédents judiciaires, ben ça n'a pas été trop compliqué pour les policiers.
Des repérés. Le temps file, là. On n'a pas tout le temps des femmes. Il y en a un là, il vole 67 barbecues chez son employeur. Ça, c'est pas fort.
Oui. Ah ben c'est. On se demande un peu que s'il pensait que c'était pour demeurer inaperçu combien de temps, là. C'est un certain Nicolas Paquet là, qui lui a volé au Canadian Tire qui chez son, à son employeur pour 126 000 $ de matériel. Fait que il au courant de trois mois là, il a volé 67 barbecues, 55 génératrices, 24 télévisions, un tapis roulant, un tracteur à gazon. Puis lui il a entreposé ça, puis même qu'il revendait certains items. Puis okay. À un moment donné, ben son employeur s'est rendu compte et puis il a avoué son crime.
Évidemment. Hey, en 10 secondes, il y en a un qui commet un vol puis il donne sa carte d'affaires.
Ouais, il avait écrit un petit message à la commis là, de la banque, hold up, beaucoup de cash, silence. Sauf que sur le petit papier qui avait griffonné ça, ben c'était sa carte d'affaires personnelle là, comme homme à tout faire.
Est bonne. On se laisse là-dessus. Elle est très bonne, celle-là. Ça, c'est vraiment pas fort. Merci beaucoup, Antoine Lacroix. Là. C'est très intéressant comme chronique. J'invite les gens à aller vous lire dans le Journal de Montréal et de Québec. Bonne fin de journée.
Bonne journée.
C'est tout pour nous déjà. Merci à l'équipe, Achille Moinet, Frédéric Monca, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulay. Et on se retrouve demain à la même heure, même poste. Bye bye.